Aline Prado, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation au Centre didactique des langues étrangères. Tu es actuellement en délégation en Nouvelle-Calédonie. Tu es maîtresse de conférence à l'Université de Rouen-Normandie au laboratoire d'ILIS, Dynamique du langage in situ. Et ton parcours, si je le résume vraiment dans un condensé, en tant que doctorante, mais aussi en tant que formatrice de français langue étrangère, tu es passée par le Canada, par l'Inde, par le Népal, notamment aussi à travers les réseaux de l'Alliance française. Le moins qu'on puisse dire là, c'est que tu n'as pas peur des décalages horaires et que, comme on va le voir, tu t'intéresses beaucoup aux questions migratoires et toi-même, finalement, tu tends à imiter un petit peu, finalement, les personnes qui font l'objet de ta recherche. Tu migres aussi, passablement. Tu viens, si je t'ai invité, c'est parce que j'ai vu que tout dernièrement, ton livre vient d'être publié aux éditions Presse Sorbonne Nouvelle. Le titre de ton livre, c'est « Politique linguistique d'immigration et didactique du français, regard croisé sur la France, la Belgique, la Suisse et le Québec ». Alors, il vient de paraître au mois de juin, le 10 juin, hein, comme tu m'as dit. Tu as même reçu le prix de thèse 2019 des Presses Sorbonne Nouvelle. Félicitations. On va parler un petit peu de ton livre dans ce qui va suivre. Et puis ensuite, je te propose qu'on parle vraiment aujourd'hui de cette question des politiques linguistiques d'immigration en lien avec les questions de didactique des langues étrangères. Je pense que ça va beaucoup intéresser nos auditeurs et auditrices. Alors, tu abordes principalement des textes juridiques et didactiques dans ton livre et tu en analyses deux dimensions principales. La question historique, donc comment ça évolue historiquement, les questions de politique linguistique d'immigration. Et puis, tu fais une comparaison entre les quatre pays ou régions francophones que j'ai mentionnées, France, Belgique, Suisse et Québec. En somme, ton livre permet de comprendre comment différentes manières de réguler les flux migratoires s'articulent à travers des manières de concevoir l'apprentissage du français comme langue nationale ou régionale. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous dire en quelques mots ce que tu as découvert et ce que tu veux nous raconter à travers ce livre ?
Okay. Merci Jean-Philippe de m'inviter, ça me fait plaisir de parler de mes recherches. Alors oui, cet ouvrage, donc il est paru en juin, c'est un travail qui est issu de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2018 à l'Université Sorbonne Nouvelle, et elle s'articule autour de trois grandes thématiques. Donc déjà, ça a été de savoir quand est-ce que la langue est devenue un enjeu politique pour les politiques d'immigration. Et puis, de voir le tournant à partir duquel on a demandé la langue aux étrangers qui désirent séjourner durablement sur le territoire. J'ai essayé de voir aussi ce qu'on appelle les idéologies linguistiques, dont toutes les représentations que l'on a sur la langue, quand on la lie à l'immigration et quand on la lie à une mythologie nationale, si tu veux. Et puis, j'ai essayé de voir dans un troisième fil rouge, s'il existait des modèles nationaux d'intégration, ou au contraire, si on assistait à une harmonisation, à une européanisation, à une internationalisation des politiques linguistiques d'immigration. Alors effectivement, moi, j'ai pris cette formule de politique linguistique d'immigration, et on entend beaucoup dans le débat public, politique ou même scientifique, on peut entendre politique linguistique d'intégration. C'est plutôt celle-là qui apparaît. Et moi, je n'ai pas choisi de parler de politique linguistique d'intégration, parce que justement, il y a un politologue suisse, qui s'appelle Hans Manning, qui dit que quand on parle de politique d'intégration, ça doit être normalement le résultat a posteriori de l'analyse, c'est-à-dire qu'on doit voir si effectivement ces politiques ont pour résultat d'intégrer les personnes et de dire qu'est-ce que c'est l'intégration. Ça, c'est un autre grand sujet. Et donc, du coup, effectivement, moi, j'ai voulu ça m'a posé problème au début de ma recherche et j'ai choisi de prendre une autre appellation pour ne pas porter cette attente ou ce préjugé sur ces politiques. Et donc, moi, je me suis concentrée. Il y a plusieurs façons de concevoir les politiques et j'ai choisi de voir des politiques institutionnelles, donc qui sont vraiment au niveau d'un gouvernement, d'une institution, d'un État. Et de voir ces politiques qui sont agencées sur la promotion de la connaissance d'une langue pour des personnes qui ne possèdent pas encore la citoyenneté de leur pays d'accueil. Alors j'ai fait une perspective comparée, donc la France, la Belgique, la Suisse et le Québec. Et donc, j'ai réuni des pays, des États différents. D'abord, il y a 4 organisations politiques distinctes au sein desquelles les compétences en matière d'intégration vont se jouer à des échelles différentes. La France, la Belgique, qui est un État fédéral, la Suisse, qui est une confédération, et le Québec, qui est un État, d'un État fédéral. Et la mise en relation de ces échelles, ça a permis de voir si le rôle que la langue a joué dans la construction de ces différentes nations ou de ces différents nationalismes subétatiques, notamment par exemple au Québec, ça a pu influencer les politiques. J'ai également choisi des contextes qui sont officiellement monolingues, comme la France et le Québec, et puis des États comme la Belgique et la Suisse qui sont multilingues. Et ça a permis de voir l'impact que le monolinguisme ou le multilinguisme officiel a sur la gestion de la diversité, de l'altérité linguistique et culturelle. Ça a permis de voir aussi les valeurs que l'on accorde à la langue et aux critères de la langue dans l'intégration dans différentes communautés linguistiques, notamment en Belgique et en Suisse, où on a une compétence territorialisée de l'intégration. Et puis, bien entendu, ce sont des pays qui partagent la langue française. Et donc, du coup, pour moi, ça a été une opportunité de voir quelles idéologies linguistiques, quelles représentations du français lorsqu'on questionne la manière d'intégrer une population étrangère. Ce qui est intéressant, c'est que, du coup, la connaissance de la langue dans ces 4 contextes est exigée, bon là, je vais à rien apprendre à personne, pour les titres de séjour et la nationalité. Et ce qui est intéressant, si on se met sur le contexte suisse, c'est que le Conseil fédéral suisse a cette formule intéressante qui est « encourager et exiger ». Et du coup, c'est vraiment ce double processus de l'intégration. C'est que d'un côté, on demande la langue parce que c'est censé favoriser l'intégration. Mais d'un autre côté, on exige parce que ça doit permettre d'encourager les efforts d'intégration. Alors, c'est intéressant de voir, par exemple, qu'au Québec, les efforts, ils doivent être préalables à l'intégration. Et ça, c'est une petite différence par rapport aux autres contextes étudiés. Et depuis bien longtemps, depuis 1979. C'est-à-dire que les candidats à l'immigration économique, puisque ce sont les candidats sur lesquels le Québec a la compétence de pouvoir choisir les critères, ils doivent se soumettre à un critère de points, enfin comme à un seuil de points. Et ce sont ces points-là qui vont établir leur potentiel d'intégration ou leur chance d'accéder sur le territoire. Et bien entendu, le français a une place très importante dans ce système de points. Et ce qui est intéressant, par exemple, pour Québec, c'est que le seuil pour pouvoir immigrer, on va dire, pour pouvoir avoir des points pour le français, est plus important que pour avoir la citoyenneté canadienne. Donc là, c'est montrer que le Québec a vraiment mis le curseur beaucoup, beaucoup plus loin. Alors qu'en France, en Belgique et en Suisse, c'est le contraire. C'est l'accès à la nationalité qui est là où on a les critères le plus importants. Bien entendu, le Québec n'a pas la citoyenneté. Donc, c'est aussi pour ça qu'il a pu mettre le curseur plus loin. Mais voilà, c'est la nationalité qui est plus importante et ce qui montre que la langue, c'est vraiment perçu comme un symbole d'appartenance à une communauté nationale, que cette communauté elle soit officiellement monolingue ou multilingue.
Et c'est frappant. Alors, pour le Québec, si je peux me permettre.
Oui, bien sûr.
Je crois que j'ai vu, c'est le niveau B2 qui est requis en français. Oui. Bon, on tombe aussi dans toute une histoire qui est très, très forte, hein, aussi émotionnellement au Québec, oui. Par rapport à une idée, à une peur d'être anglicisé et puis de voir le français disparaître. Il y a aussi peut-être là un autre enjeu, celui de revitaliser ou en tout cas de maintenir la vitalité du français, de maintenir, si j'ose dire, une certaine homogénéité quand même du territoire québécois. Et ce qui est frappant, c'est qu'au sein même de l'État canadien, en fait, le Québec, et tu me corriges si je dis une bêtise, mais le Québec n'a pas la même politique que les autres régions du Canada. Donc, ils sont beaucoup plus stricts par rapport aux exigences en des compétences en français. Et B2, c'est vraiment élevé. Hein. Il faut, Je me demande même, d'ailleurs, c'était un petit peu dans cette optique que je voulais t'amener pour la suite. C'est, on a toujours ces niveaux seuils hein, du cadre européen de commun de référence. Là, c'est frappant de voir à quel point il est élevé. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de trier, si j'ose dire, les migrants selon des pas seulement des compétences linguistiques, mais on peut difficilement atteindre un niveau B2 sans avoir fait d'études.
Oui. Effectivement, ça c'est vraiment une question intéressante que tu soulèves, parce que ce critère de sélection de l'immigration, il est plus ou moins explicite. Au Québec, comme tu dis, c'est explicitement dit. Il n'y a pas de tabou dans le discours politique sur ça. Comme tu dis, c'est la province qui allait le plus loin parmi les provinces canadiennes pour des enjeux historiques évidents, comme tu dis, ils appellent ça de préserver le fait français, la communauté francophone, de la revitaliser. Et donc, du coup, effectivement, on est sur du B2 et il est question de sélectionner sur des critères économique, linguistique, la population québécoise dans son ensemble, hein, pour la main-d'œuvre, aussi parce qu'ils ont un problème démographique. Donc voilà, c'est dans un ensemble beaucoup plus large. Alors qu'en France, en Suisse et en Belgique, c'est moins explicite, on va dire. On ne se permet pas de dire de façon aussi, voilà, ou si on le dit, c'est un certain bord politique qui peut toujours être discuté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va toujours garder une certaine mainmise pour immigrer, pour sélectionner les immigrés. Par exemple, en Suisse, il y a eu cette LEI, cette loi sur les étrangers et l'intégration, là, qui est parue en 2019. Et puis, il y a eu tout ce débat sur est-ce qu'on quitte l'accord de Schengen, etc., etc. Et donc, du coup, dans le message de loi, ça avait de cette loi sur, qui a donné justement des nouveaux prérequis linguistiques pour le droit au séjour en Suisse, il y avait eu ce débat de est-ce que, du coup, les Européens aussi, on va devoir leur imposer, si tu veux, des nouveaux. Et en fait, on s'est dit, non, parce qu'ils ont quand même un potentiel d'intégration suffisant. Donc, on va quand même garder cette distinction entre ressortissants communautaires et extra-communautaires. Mais si tu veux, ça rappelait quand même dans les discours quelque chose que vous avez eu ensuite sur le modèle des deux cercles et des trois cercles. Je ne sais pas si tu connais.
Mmh. Oui.
Je ne sais pas si tous les auditeurs connaissent. Voilà, c'était un modèle politique qui avait été fait pour dire on choisit les immigrés selon leur distance culturelle, selon leur proximité culturelle avec la culture suisse. Et donc maintenant, même si on ne le dit plus de la même façon, la langue, c'est très clair dans le message de loi, permet quand même de dire, les Européens, on garde finalement cette distance, cette proximité culturelle, donc on n'a pas besoin de leur mettre des prérequis linguistiques.
Mais elle n'est pas forcément linguistique, la proximité culturelle. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, je veux dire, qu'est-ce qu'un Polonais a de plus... en quoi est-il plus proche culturellement de la France, des Français, qu'un Algérien?
Alors, je crois que c'est la contre, si tu veux, que moi, je vais pas... Mais en fait, il y a cette question de dire... La maîtrise de la langue va être pour nous un gage d'intégration. C'est-à-dire qu'on va se dire que si les étrangers maîtrisent la langue, ils vont être plus rapidement intégrables à la société. Par contre, là où ça peut être, et on comprend sur un point de vue économique, là où ça peut être tendancieux, c'est ce que tu soulèves et où je ne vais pas m'avancer. Mais effectivement, de basculer le critère de la proximité culturelle dans le modèle des deux cercles à trois cercles à la maîtrise de la langue, comme ça a été fait dans les rapports de loi pour la LEI, on voit bien comment le basculement est fait. Après, la justification, elle est beaucoup plus tendancieuse. Moi, je ne vais pas
Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour quand même souligner la tension entre le fait que, justement, un peu trop facilement, et puis je pense que c'est aussi un peu quand même ce qu'on peut lire dans tes travaux, en tout cas ce que moi j'interprète en te lisant, c'est... quand même cette tendance à dire oui, mais avec la langue, etc., c'est le gage d'intégration. Ouais, mais il n'y a pas que la langue, et finalement, il y a des travailleurs et travailleuses, il y a des personnes migrantes dont on tolère totalement le fait qu'ils ne maîtrisent pas la langue française, en tout cas, ou la langue locale plus globalement, parce qu'en Suisse, ça va être lié aussi au territoire. Hein, ça peut être pour, la même chose pour l'allemand en Suisse alémanique et l'italien au Tessin. Mais là, vraiment, c'est qu'il y a d'autres, et ça, je pense que j'ai l'impression que c'est une force, c'est que tu t'intéresses pas seulement au fait que c'est la langue, non, c'est aussi d'autres choses qu'on vient faire graviter autour de la langue, etc.
En fait, si tu veux, pour ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi le cas du Québec, tu vois, qui vraiment met ce curseur très loin. Mais même eux, il y a des arrangements, en fait. C'est-à-dire que, comme tu dis, on met ces règles-là, mais on sait bien qu'il y a certains étrangers qui vont être malgré tout très intéressants pour nous. Et donc, du coup, le Québec a aussi cette exception, ça s'appelle une référence en francisation, c'est-à-dire qu'on va accorder un délit supplémentaire pour que certains étrangers puissent acquérir ce niveau B2, ce qu'on veut quand même qu'il ait, mais on leur donne des années supplémentaires une fois qu'ils sont sur le territoire parce qu'ils ont un potentiel socio-économique très intéressant pour le Québec. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut… Il y a un historien de l'immigration qui s'appelle Gérard Noriel, qui a beaucoup travaillé sur cette question, voilà, notamment des papiers d'identité. C'est très intéressant sur la création des papiers d'identité. Quand est-ce qu'on a dit qui est français et qui ne l'est pas? Et du coup, à partir du moment où on a dit qui ne l'est pas, il a fallu dire qui ne l'est pas et comment. Et donc, du coup, on a détaillé plein de catégories. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, du coup, toutes les catégories, ça a été des traces de compromis avec les personnes qui ont des intérêts dans l'affaire. C'est-à-dire qu'on va dire, comme la référence en francisation, c'est un statut d'immigration particulier, mais qui leur permet d'avoir cette dérogation parce que le gouvernement pense qu'ils ont un intérêt supplémentaire à immigrer que les autres n'ont pas. La question, c'est où est-ce qu'on met le critère et comment on le définit.
Et ça, c'est vraiment parfait. Tu parles de ça, ça me permet de faire le lien vers la suite. L'autre thématique que je voulais aborder avec toi, c'est vraiment cette question de… aussi comment ces questions-là finalement se répercutent dans les politiques, dans la didactique, vraiment dans la manière de faire la didactique des langues étrangères. Quelles sont finalement en fait, puis aussi quelle est finalement l'interaction entre politique, didactique et puis je dirais science. Finalement, quels sont les transferts, les réappropriations de savoir théorique, méthodologique, scientifique dans des politiques linguistiques et vice-versa. Quelle est l'interaction entre ces deux, finalement?
D'accord. Oui, merci. C'est une très bonne question. Déjà, je vais commencer par dire que dans tous ces contextes, mais pas que, parce que finalement, je me suis concentrée sur ces contextes-là, mais c'est quelque chose de beaucoup plus étendu, qui concerne bien entendu l'Allemagne, l'Australie, l'Angleterre, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai relevé qu'il y a plusieurs stratégies institutionnelles qui ont été mises en place pour intervenir sur les formations. Et ça, les auditeurs qui travaillent sur des populations en situation de migration, elles vont tout de suite se reconnaître, notamment avec le projet FIDE que vous avez en Suisse, qui illustre vraiment ces stratégies institutionnelles pour structurer, centraliser les offres de formation. Alors, ça passe notamment par le fait que les cours de langue vont être donnés dans des dispositifs, dans des parcours d'intégration. Et donc, du coup, il va y avoir, par exemple, un crédit horaire de formation qui va être alloué. Donc, on va avoir une structuration des formations. Ça va être dans les formations, dans des organismes qui sont labellisés, qui sont accrédités. Et donc, du coup, il y a un cahier des charges précis. Notamment, en Suisse, vous avez ce label qualité FIDE, qui aussi impose un langage commun, des formations, etc., aux formateurs. Et puis, il y a des niveaux de langue qui sont attendus également à la fin des parcours. Et donc, du coup, ça oblige également, il y a une obligation de résultat de la part des organismes de formation, de formateurs. Alors, moi, j'ai repris une formule à une didacticienne de l'anglais qui s'appelle Danielle Bailly, qui proposait cette appellation de didactique institutionnelle. Et je l'ai beaucoup aimée, je l'ai reprise et j'ai parlé de didactique institutionnelle de l'intégration. C'est-à-dire que Il a été question vraiment d'apporter une expertise légitime au secteur de la formation linguistique pour les adultes migrants, notamment parce qu'il y a des didacticiens universitaires, mais également des politiques, des professionnels qui ont contribué à son expertise par la création de référentiels cadres, de documents de référence, notamment le curriculum 4 pour l'encouragement linguistique des migrants que vous avez en Suisse, qui a été fait sous l'égide, par exemple, de l'Institut du plurilinguisme. Donc, du coup, on voit bien comment est-ce que l'Office fédéral des migrations peut commander une recommandation, un rapport scientifique pour ensuite établir le système FIDE, etc. On reconnaît également la qualité des organismes de formation par un processus de sélection, comme je disais, sur labellisation, accréditation, et puis la professionnalisation des formateurs. Donc, on va créer un ethos, c'est-à-dire un langage commun, des pratiques communes aux formateurs. On va créer des formations continues, des formations initiales. Nous, en France, on a vraiment, le gouvernement a vraiment poussé avec le français langue d'intégration. Donc, il y a même eu des masters à un moment, français langue d'intégration, qui étaient nécessaires pour pouvoir, donc les formateurs, un nombre de formateurs devaient passer ces masters FLI pour pouvoir ensuite recevoir le label qualité pour les formations. Enfin, ça a été vraiment très, très structuré. Et ce qui est intéressant, c'est que ce FLI, par exemple, pour voir comment est-ce que le politique intervient ensuite dans les pratiques des formateurs, donc le français langue d'intégration était apparu en 2011 en France par une ancienne direction du ministère de l'Intérieur qui a imposé, qui a donné un nouveau cadre en disant on fait un néologisme, on crée une nouvelle appellation. Et on fait un label, on fait des formations, etc. etc. Et finalement, ce FLI, même s'il a créé un certain tollé finalement dans une partie de la profession, a eu un grand succès. Et même si maintenant les labels FLI n'existent plus, même si les formations FLI n'existent plus en tant que telles vraiment dans les universités, le FLI s'est répandu. Donc, le FLI existe au Québec, il existe en Suisse, il existe en Belgique, on peut le trouver dans des offres, des appels d'offres, des offres d'emploi, des
mais
formations
continues.
Ça n'existe
plus sur le plan institutionnel. C'est assez fou, donc ça veut dire que finalement, ça a été un petit peu, c'est un projet éphémère qui a laissé des traces idéologiques assez fortes quand même.
Exactement.
Et qui a vraiment des conséquences encore sur nos manières de structurer les politiques d'immigration, aussi au travers d'appareils didactiques.
Oui.
Donc c'est vraiment fascinant ce que tu nous racontes, parce que il y a vraiment toute la question de l'expertise qui passe travers l'éthos que tu as mentionné, qui a vraiment on a l'impression d'entendre aussi un discours très économique en fait. Finalement, il y a toute une économie de comment on va structurer la formation avec des seuils, avec des personnes qui sont certifiées, d'autres qui ne le sont pas. Enfin, il faut avoir certains crédits. Et ça, ça structure la vie de tout le monde, des apprenants. Enfin, tu me corriges si je dis une bêtise, mais c'est aussi ce que montre Louisa Martine Roro dans un de ses articles où elle dit les apprenants sont les premiers concernés à se dire « j'ai des objectifs à atteindre, ce sont mes objectifs pour pouvoir avoir accès ». Donc j'apprends une langue pas seulement pour le plaisir, c'est pas forcément une question de plaisir, on se rend compte dans ces contextes-là, mais c'est parce que je dois engranger un certain nombre de crédits pour avoir accès, pour pouvoir avoir un droit de séjour, par exemple, avoir un droit à la nationalité, la citoyenneté. Donc c'est assez fascinant de voir à quel point tout ça s'est quantifié aussi. Finalement, il y a vraiment j'ai l'impression, je crois que c'est aussi un aspect dont tu parles dans ton livre, qui a une politique du chiffre, finalement. où le chiffre devient finalement une manière objective de montrer que de structurer les apprentissages. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu... Alors, je ne sais pas dans quelle mesure... Est-ce que c'est quelque chose qui se répercute dans des méthodes même d'enseignement, de transmettre la langue c'est quelque chose qu'on voit en classe de langue dans ton livre, ou là, je vais un peu trop loin.
Là où je pourrais peut-être plus te répondre, plutôt que dans les méthodes, même si effectivement, par exemple, en France, c'est effectivement, ça marche sur appel d'offres, hein, donc on est vraiment dans ça, donc c'est un appel d'offres qui est fait par un organisme rattaché au ministère, et donc du coup, il y a un programme avec un cadre, et donc du coup, c'est même quantifié dans, il y a 20 heures qui est attribué à ça, et dans les 20 heures, il y a les objectifs, on est dans l'approche communicative, donc objectifs pragmatiques, linguistiques, socioculturels qui doivent être faits dans ces 20 heures, donc oui, on peut quantifier l'enseignement. Surtout l'approche communicative le permet finalement assez bien. Ça, c'est intéressant, c'est des chercheurs de l'université de Tours qui ont pu montrer que finalement, dans une réflexion épistémologique, l'approche communicative marchait très bien justement avec la quantification, puisque comme on arrivait très bien à dissocier tous ces objectifs. On a des objectifs interactionnels, discursifs, on a des objectifs linguistiques, grammaticaux, phonologiques, etc. Donc, en fait, on peut très facilement faire une progression, si tu veux, pédagogique, qui rentre dans un cadre, dans une progression très quantifiée, comme tu dis, et qui permet d'avoir des parcours de 50 heures, 100 heures, 200 heures, et de pouvoir avancer comme ça. Donc ça, effectivement, on a la politique du chiffre dans ça. Et puis, surtout, moi, là où... j'interviewe en ce moment les formateurs, c'est beaucoup sur les tests. Moi, je pense que c'est vraiment là où on a un impact très fort du politique, à la fois, bien sûr, pour les apprenants et puis pour les formateurs, à mon avis, parce que ça crée quand même une casquette, un changement de pratique pour les formateurs très important, parce que d'un autre côté, on est toujours en train d'évaluer quand on est enseignant, on évalue. Mais là, on doit évaluer et cette évaluation, elle rentre dans des démarches de préfecture. C'est pas rien quand même comme nouvelle casquette qu'on donne aux enseignants. Et là, la politique du chiffre, elle prend un impact dans les pratiques assez nouveau finalement.
Non, on a quand même la décision de l'enseignant peut impacter vraiment la vie.
Oui.
L'avenir de l'apprenant, de l'apprenante, c'est quand même pas rien. Et pour reprendre là, hein, quand tu parlais de quantifier, on peut très bien quantifier l'approche communicative. C'est vrai que j'imagine aussi que ça s'y prête bien, vu que c'est très segmenté. C'est y a des objectifs qui sont aussi qu'on peut retravailler à travers, alors on ne va pas aimer ça, hein, mais une certaine grammaire, un certain lexique, certains objectifs, etc. Mais il y a aussi la question de la quantification, elle devient problématique puisqu'elle part du principe que tout apprenant part avec le même bagage socioculturel, éducatif, et qu'il est finalement ses objectifs sont quantifiables, enfin selon une norme qui va le
plus ou moins. Il y a quand même
ça peut être un processus quand même d'exclusion. Ouais. Est-ce qu'il y a alors là, ce serait intéressant de savoir. Est-ce que il y a des stratégies de compensation pour des apprenants qui auraient qui aurait vraiment aucune connaissance, par exemple, du français, ou qui aurait pas fait d'études du tout, qui aurait pas suivi la scolarité obligatoire, etc. Je pense que c'est des profils qui existent quand même dans les personnes dans les apprenants que tu as pu rencontrer.
En fait, pour nuancer quand même, il y a un effort qui est fait parce que on va dire que c'est pas dans l'objectif des politiques. Que les personnes n'y arrivent pas. Il faut quand même se dire qu'il y a de l'argent qui est investi, il y a des personnes qui travaillent. Donc, du coup, il y a quand même une envie de quand on met en place ces formations, ces parcours d'intégration, ces cours, il y a, comme on dit, une évaluation des politiques qui sont faites derrière. Et puis, pareil, l'envie est quand même que les gens réussissent. Donc, il y a quand même une nuance dans le fait où ces parcours ils sont quantifiés, mais par exemple en France, il y a plusieurs types de parcours selon le profil des gens. Après, la question, c'est est-ce qu'ils ont assez d'heures pour pouvoir atteindre le niveau? Alors ça, c'est toute une question. Il y a des évaluations qui sont souvent faites en disant, on est par exemple passé d'un format de 200 heures à 600 heures, nous en France, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, en 200 heures, les gens ne pouvaient pas atteindre le niveau A1 quand ils n'avaient pas de compétences en littératie. Ça ne marchait pas. Donc, du coup, on a augmenté à 400 heures et puis ensuite 600 heures. Donc, il y a un effort, il y a une prise en compte, bien entendu, de ces publics qui sont faites, mais ça ne change pas la pratique, qui est totalement différente, par exemple, des pratiques associatives avec les ateliers sociolinguistiques. C'est pas du tout la même approche de l'enseignement, de cette volonté d'efficacité, hein, de dire, voilà, vous avez tant d'heures et à la fin, vous devez arriver à voilà, les démarches associatives, les ASL, sont pas du tout, voilà, sont pas du tout.
Il y a aussi tout l'enjeu de la socialisation langagière qui n'est finalement pas forcément... là, hein, c'est peut-être une des limites, c'est quand on analyse ces textes institutionnels, on ne se rend pas toujours compte de tout ce qui se passe en marge de la classe de langue. Toute l'importance, hein, des auteurs comme Anne-Christelle Zeiter qui avait montré ça, toute l'importance de pouvoir accéder à d'avoir des amis qui savent le français, etc., de pouvoir participer à des activités de quartier, etc. Et puis là, ça m'amène un petit peu, j'ai envie un petit peu de t'amener dans tes expériences aussi en tant que formatrice de français langue étrangère, puisque ça fait partie de ton parcours aussi, puis que nous, au CEDIL, on s'intéresse beaucoup aussi à ce lien entre recherche et pratique. À la lumière de tes recherches, puis à la lumière, j'ai aussi l'impression, en lisant ton introduction dans ton livre, que c'était finalement... En tant que formatrice, tu t'es rendu compte qu'il se passait un truc et que tu devais mener tes recherches pour mieux le comprendre. Rétrospectivement, maintenant que ce livre est sorti, quelles sont les réflexions que tu peux mener sur la pratique enseignante finalement auprès d'apprenants qui sont en situation de migration ?
Ok. Pour les auditeurs, mon parcours, c'est que quand j'étais en master de didactique, j'ai été bénévole dans un centre social, donc en atelier sociolinguistique justement, dans des ateliers qu'on appelle d'alphabétisation. Puis ensuite, je suis partie dans le réseau Alliance française en Inde et au Népal. Et puis, durant ma thèse à l'université, j'ai enseigné le FLE dans des diplômes universitaires. Donc voilà, ça, c'est mon parcours avec les différents profils d'apprenants que j'ai pu avoir. Et l'idée que j'ai défendue dans l'ouvrage par rapport à mes expériences, c'était de questionner les limites de la contextualisation et de l'hyperspécialisation en didactique des langues. C'est-à-dire, c'est pas nouveau, hein, finalement, de dire... On parlait dans les années 80 déjà avec l'approche fonctionnelle, donc communicative, de dire attention à la balkanisation de la didactique des langues. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va vouloir, dès qu'on trouve un contexte, apporter des réponses didactiques qui soient les plus performantes, les meilleures, pour pouvoir répondre mieux aux besoins, etc. Et donc, on crée différentes appellations jusqu'au flux. Et le fait est que les migrants... On veut les classer comme un public qui est spécifique. Et moi, j'ai remis en cause un peu ce fait de dire c'est une approche spécifique pour un public spécifique avec des méthodes spécifiques. Parce que ça, c'est pas nouveau, hein, aussi de dire justement l'approche fonctionnelle communicative, elle est née si on fait un petit peu de retour, elle est née sur l'idée que tout le monde était spécifique. Donc on pouvait tout spécifier. Et je défends plutôt l'idée que le FLE, c'est une grande famille et que quand on est enseignant de FLE, on s'adapte au final à chacun et on s'adapte à chaque contexte. On n'a pas besoin de sur-spécifier. D'autant plus que quand on veut sur-spécifier un public et qu'on formule des propositions didactiques qui sont censées leur être contextualisées, le risque existe de les stigmatiser aussi. Ça, c'est un enjeu qui peut être débattu. Et puis, si on dit qu'il y a des publics spécifiques, ça veut peut-être dire que d'autres ne le sont pas. Enfin, qu'est-ce que ça sous-entend ? Il faut aller chercher aussi dans les implicites des discours qui sont tenus. Il y a autre chose, moi, que j'ai voulu un peu combattre, c'était de dire quand on est formateur FLI, on est face à une grande hétérogénéité. C'est des choses qu'on entend souvent. On est face à des groupes hétérogènes. On doit être très adaptable parce qu'on doit s'adapter à des conditions particulières. On doit gérer une grande diversité de besoins. Et moi, ça ne correspondait pas du tout à mon expérience, même si j'ai enseigné finalement auprès de migrants, mais des migrants en centre social, mais également des migrants finalement à l'université. Pourquoi est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient plus ou moins migrants que d'autres ? Et puis, quand j'étais au Népal, j'ai aussi enseigné finalement à des migrants. Mais je ne savais pas quand j'allais aller au Népal, mais on avait des Tibétains qui étaient en situation d'exil au Népal. Mais si j'avais pas, mais j'ai pas fait un master fee, mais comment est-ce que dans ma classe j'aurais dû avoir un traitement différencié avec ces personnes qui étaient en exil voilà, ça pose des questions pour moi qui sont vraiment vraiment débattables. Cette logique d'accompagnement des publics, on dit dans le FLI, voilà, il faut accompagner le public. Pour moi, elle se retrouve aussi dans toutes les expériences d'enseignement que l'on a. Par exemple, quand j'étais en Inde ou au Népal, bien sûr que l'on aide aussi les étudiants à faire des dossiers sur Campus France, des dossiers pour immigrer au Québec, des dossiers. On est aussi dans une logique d'accompagnement. Il y a aussi la question beaucoup de quand on est dans le FLI, on doit beaucoup didactiser, on doit prendre beaucoup de documents authentiques et on doit avoir une grande ingénierie, etc. Mais elle existe aussi elle est partout, exactement.
Dans le français sur objectif spécifique pour les entrepreneurs, pour les futurs juristes, etc. Elle est quand même. Exactement. On la retrouve un peu partout, en fait. C'est vrai que c'est en t'écoutant. Moi, j'ai enseigné à des cheminots et on me demandait aussi de contextualiser. Voilà. C'est vraiment, en fait, là, il y a une question. Ce qui est intéressant quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'il y a une question de posture de l'enseignante, de l'enseignant serait censé adopter une autre posture. Et ce n'est pas seulement d'un point de vue pédagogique. J'ai l'impression qu'on te... quelle est cette autre posture? Pourquoi spécifier? C'est un peu ça que tu questionnes. Pourquoi avoir une posture si différente dans le français langue d'intégration, si différente qu'avec des entrepreneurs? Est-ce qu'il y a... C'est en tout cas pas une question... Finalement, c'est plus tellement une question linguistique. Là, c'est vraiment une question sociale, économique.
C'est surtout... Pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer des formations particulières et des approches pédagogiques particulières et des outils particuliers. C'est ça qui me... En les appelant différemment d'autres publics. Parce que, voilà, après, les auditeurs feront... Peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec moi, peut-être qu'ils ne m'en servent pas du tout. Pour moi, j'ai vraiment l'impression... Et je veux choquer personne. Au final, c'est plus un débat que je soulève. Je n'ai pas envie d'être vindicative en me disant... voilà, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Mais moi, c'est des questions quand même qui m'ont, comme tu dis, cette question de posture, cette question de polyvalence aussi qui est beaucoup questionnée, de dire on est très polyvalent quand on fait du FLI, mais on est polyvalent aussi quand on travaille en Alliance française. Et cette polyvalence, on va aussi aider au café, on va faire des événements culturels, on va aussi faire des sorties. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Voilà, c'est la question. Qu'est-ce qu'on attend d'un formateur FLI? Est-ce que ce n'est pas le politique qui est venu nous dire, attention, c'est un public particulier avec des objectifs particuliers? C'est juste la question que je soulève dans mon livre.
Et c'est très intéressant, en fait, de voir vraiment toujours cette interaction entre ce que tu nous présentes de tes expériences et puis ça nous ramène toujours à une question politique, finalement, sociale. Super intéressant. Là, actuellement, pour revenir sur le fait du contexte, actuellement, tu es en Nouvelle-Calédonie, en délégation. Maintenant, quels sont tes projets de recherche? Là, tu es au milieu du Pacifique, loin d'Europe. Je pense que ça doit vraiment changer d'air quelque part, ou alors peut-être pas du tout, je m'avance un peu. quels sont tes projets actuels? Tu es toujours dans des questions de politique linguistique.
Ouais. Je suis en Nouvelle-Calédonie depuis 5 mois, donc ça fait pas. Et puis on a été confinés aussi ici. Donc finalement, ça avait du même le temps, on va dire. Mais depuis ma thèse, je travaille à. Alors j'étais sur des politiques qu'on appelle institutionnelles. Donc c'était vraiment, comme tu disais, les textes de loi, la législation au sens large, des rapports gouvernementaux. Et également des cadres de référence institutionnels, etc. Donc, c'était une échelle vraiment qu'on a macro-institutionnelle. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir la mise en œuvre de ces politiques par des acteurs sociaux. Donc, du coup, j'essaye maintenant, et ce n'est pas facile, de travailler à cette articulation macro-institutionnelle et micro-individuelle. Et donc, de voir la réception des politiques sur le terrain par les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire les politiques, ceux qui travaillent dans les institutions, les formateurs, les coordinateurs pédagogiques, etc. Ceux qui font les tests, ceux qui doivent corriger les tests, toutes ces personnes-là qui doivent vivre et faire vivre également les politiques. Donc, je travaille sur ça, sur les échelles d'influence, sur les processus de construction également des politiques linguistiques et éducatives. Comment est-ce qu'on peut transgresser également? Comment est-ce qu'on peut sortir du cadre, etc. Donc, par exemple, là, je travaille sur un corpus où j'ai interrogé des personnes du ministère de l'Intérieur, j'ai interrogé des enseignants-chercheurs également, des coordinateurs pédagogiques, des bénévoles, des hauts fonctionnaires. Enfin, voilà, un corpus très varié pour donner un panorama, pas exhaustif bien sûr, mais un panorama de la formation linguistique aux migrants et de toutes les personnes qui s'occupent de faire vivre les politiques. Voilà, donc ça, c'est mon projet actuel. Donc, j'écris des articles sur ça, je communique en ce moment sur ça. Et la Nouvelle-Calédonie, pour le moment, je n'ai pas encore travaillé sur le terrain. Je travaille encore finalement sur les données que j'avais avant de venir. Mais bon, voilà, pour la Nouvelle-Calédonie, on va dire que c'est un terrain particulièrement intéressant, particulièrement riche pour les personnes qui s'intéressent aux langues et qui travaillent dans les langues. C'est un hotspot, on va dire, de la diversité linguistique ici. Il y a 28 langues sur un territoire qui est quand même... c'est quand même une grande île, mais on a 28 langues sans compter les langues d'émigration. Donc, 28 langues kanak sur le territoire avec des migrations d'Océanie, par exemple, pour les Sefutuna, du Vanuatu, des Fidji, des migrations également qui viennent d'Asie, du Vietnam, beaucoup. Donc, c'est un territoire très, très intéressant pour les personnes qui s'intéressent et qui travaillent dans l'enseignement et l'apprentissage des langues. Et le premier projet que je vais mettre en place d'ici 2-3 mois, c'est de travailler sur la contextualisation des politiques d'immigration. C'est vraiment ça que j'aimerais faire, c'est-à-dire de voir, puisqu'on est encore en territoire français, c'est non plus dans un processus d'indépendance, la Nouvelle-Calédonie est dans un processus d'indépendance. Donc, du coup... Là, il y a le troisième référendum qui approche en décembre, qui doit statuer, donc c'est un moment vraiment historique, qui doit statuer sur est-ce que la Nouvelle-Calédonie sera un territoire indépendant ou non. Et donc, c'est de travailler sur ces mobilités, ces migrations, et de voir comment est-ce que ça se contextualise quand on est en Outre-mer, dans un territoire si différent de la métropole. Comment est-ce que la préfecture, statut sur le droit commun dans un infra-droit, ça s'appelle un infra-droit calédonien.
Merci beaucoup, Coraline Prado. Je vois que le temps file, c'était vraiment... merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, puis d'avoir un peu expliqué toute ta recherche, ton livre. Alors, on va mettre tous les liens sur la page du CEDIL, bien sûr, pour les auditeurs et les auditrices qui voudraient en savoir plus. D'ici là, je te souhaite une... Chez toi, c'est le soir, sauf erreur.
Ouais.
Là, je te souhaite donc une bonne soirée.
Merci.
Et puis, à la prochaine.
À la prochaine.